en dirait des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Cette émission est une rediffusion.
Bonjour, bonsoir et bienvenue à Chambord, dans le plus vaste, le plus majestueux des châteaux de la Loire, commandé par un amoureux des arts et de la chasse, le roi François Ier, à son retour de la bataille de Marignan. RFI a installé aujourd'hui son studio dans la salle des chasses au rez-de-chaussée du château, au cœur de ce domaine national inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Car cette année, la plus célèbre construction de la Renaissance française fête ses 500 ans et au cœur des festivités, une exposition qui rassemble quelques 150 œuvres issues de 33 collections internationales, des tableaux, des dessins, des plans, des manuscrits enluminés, des objets, notamment des armes, des pièces de monnaie ou des meubles, et j'en passe. Tous nous racontent Chambord au passé, au présent et même, figurez-vous, dans un futur utopique. Chambord, 1519-2019, l'utopie à l'œuvre, se tient jusqu'au 1er septembre au deuxième étage du château et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Jean de Sonville.
Bonjour.
Merci de nous accueillir ici. Vous êtes le directeur général du domaine national de Chambord. Alors on fait rarement, je dois vous l'avouer, des émissions dans un aussi bel écrin. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la salle des chasses où nous avons donc installé notre studio ?
Nous sommes ici dans le donjon. Donc dans la partie du premier projet de Chambord, au rez-de-chaussée, dans ce qu'on appelle la tour Henri V. Alors Henri V, c'était le comte de Chambord, en fait c'est le dernier Bourbon en ligne directe, qui a été roi un jour en 1830, et qui a pris le titre de comte de Chambord parce qu'il vivait à l'étranger en exil, et qu'il était attaché à Chambord, qui lui appartenait en propre. Henri V, c'est le descendant en ligne directe d'Henri IV. Et donc dans cette pièce, on a le portrait d'Henri IV d'un côté, le portrait d'Henri V, voilà, qui finit la ligne directe des Bourbons. Et on est dans un vestiaire de chasse qui est garni de boiseries de style Renaissance en chêne, un sol en tomette et de magnifiques poutraisons en chêne à plus de 7 mètres au-dessus de nos têtes. Qui vous donne une idée de l'ampleur de la pièce qui fait par ailleurs 9 mètres de côté au moins selon le système modulaire métrique que Léonard de Vinci affectionnait.
Également avec nous autour de la table de ce studio éphémère de RFI, le philosophe Roland Fer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes co-commissaire de cette exposition et vous vous êtes occupé de la dimension patrimoniale et à vos côtés, l'architecte Juan Fernandez Andrino, bonjour à vous également.
Bonjour.
Vous avez travaillé avec l'autre commissaire, l'architecte Dominique Perrault, sur l'autre partie de l'exposition, les deux étant imbriqués, la partie non pas patrimoniale mais plus contemporaine qui présente 18 projets présentés par des laboratoires d'architecture d'universités françaises ou étrangères, on va en parler tout à l'heure dans la seconde partie de l'émission. Alors Jean de Sonville, imaginez un instant que vous vous adressez à quelqu'un qui n'est jamais venu ici à Chambord, qui n'a jamais vu une photographie ou un dessin du château de Chambord. Que lui diriez-vous ?
Mais que la question de cette exposition, c'était d'expliquer en fait ce qu'est Chambord, pourquoi Chambord a été construit, quel est son sens, et lui dire qu'au fond, Chambord, c'est plusieurs choses à la fois. Bien sûr que c'est un immense château, mais que c'est d'abord une idée, un château idéal, une sorte d'utopie, aussi une œuvre poétique, c'est une sorte de château onirique du monde des chevaliers qu'affectionnait François Ier, et que donc ça parle à notre raison comme à notre émotion et à notre sens des rêves. C'est pour ça que les enfants se voient en chevalier ou en princesse, et que les grandes personnes voient aussi l'œuvre de génie qu'est Chambord, et qu'est toujours Chambord aujourd'hui, qui parle aussi aux architectes contemporains comme Dominique Perrault ou Juan Fernandez, ici présents.
Alors, qui dit œuvre, Roland Fer dit forcément auteur, dit forcément créateur. Et en ce qui vous concerne, le créateur, il n'y a pas à barguigner, c'est François Ier. C'est le roi créateur, le roi architecte, l'intention créatrice, c'est lui.
Oui, ça ne fait, je crois, pas l'ombre d'un doute pour les historiens de Chambord que non seulement François Ier a voulu ce château, probablement du côté des années 1516-1517, mais qu'en plus, je dirais qu'il y a mis la main, en quelque sorte. On a des témoignages, en particulier une très belle lettre qui est dans l'exposition d'un diplomate italien qui, ayant voyagé avec François Ier au cours d'un de ses improbables déplacements de la cour dans des lieux de chasse, place où on dormait probablement à la fraîche ou quasiment, a observé François Ier en train d'imaginer un édifice qu'il voulait construire à l'endroit où il était en pleine campagne et qui a pris la plume et le papier et qui a produit un dessin. Donc on sait que François Ier se mettait volontiers dans la posture de l'architecte et qu'il avait un goût prononcé pour les formes. Donc on peut imaginer que la forme de Chambord, ou que plutôt que ce Chambord qui est une forme, doit beaucoup à François Ier. De surcroît, dans la France de ce début du XVIe siècle, l'organisation des châteaux, l'organisation des grands projets architecturaux ne faisait pas intervenir un architecte au sens où nous l'entendons nous aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui est à la fois concepteur du projet, organisateur des entreprises, coordinateur des travaux et qui suit un chantier de bout en bout. L'importation du personnage de l'architecte qui est venu d'Italie, c'est avant tout le dessin, c'est avant tout la conception. Les maîtres maçons, qui sont des artisans extrêmement expérimentés en Val-de-Loire parce qu'ils ont eu l'occasion de tremper dans un nombre très important. Vous savez que c'était la résidence principale de la cour entre 1430 et 1430 à peu près. Donc il y a ici des compétences de maître maçon, mais qui n'interviennent que secondairement dans la conception des édifices. Donc notre hypothèse, c'est que c'est une œuvre collective dans laquelle, à l'échelle, au stade de la conception, c'est le roi qui a joué le rôle principal.
Mais donc qui dit conception dit évidemment intention. Quelles étaient les intentions de François Ier? Est-ce que c'était une intention artistique, une intention architecturale, une intention politique? Une intention peut-être aussi religieuse, puisque à l'époque il est difficile de séparer pouvoir spirituel et pouvoir temporel.
Je pense qu'effectivement il y a tout ça.
Et peut-être bien d'autres choses.
Peut-être bien d'autres choses. Mais je dirais quand même les deux intentions principales me paraissent être celles-ci. D'une part, je crois qu'il y a une intention formelle. On sait que l'intention de départ était de créer une résidence de chasse dans un territoire giboyeux, et on sait la passion que François Ier vouait à la chasse. C'était une manière pour lui de se retirer un peu, de se retrouver avec sa petite bande, un peu seul, un peu loin du monde, et c'était sans doute la motivation de départ. Mais on sait aussi qu'à un moment qu'on a du mal à dater, mais peut-être du côté de 1518, c'est-à-dire en gros un an et demi avant l'ouverture du chantier, quelque chose a changé dans le projet de Chambord. L'échelle de l'édifice a été augmenté d'un facteur 1,5 ou peut-être un peu plus. Le château a changé de forme et là on se dit qu'est apparu quelque chose de nouveau, c'est-à-dire l'intention de créer un objet architectural voué à l'admiration du monde.
Donc l'idée c'était d'envoyer un message de puissance.
Un message de puissance. Alors, à partir de là, on doit lire Chambord comme un exercice de rhétorique monarchique. Avant tout, il raconte les réussites de ce roi chevalier qui a remporté la bataille de Marignan et qui depuis a été reconnu comme à la tête de la principale puissance politique et militaire de l'Europe chrétienne, ce qui lui donne une mission, ce qui lui donne le rôle de défenseur de la vraie foi, d'ailleurs menacée à cette époque puisque les Ottomans viennent de prendre Constantinople en 1453. Donc il y a toute une rhétorique sur ce personnage du roi chevalier défenseur de la vraie foi qui vient de passer une alliance solide avec le pape Médicis, le pape Léon X, qui d'une certaine façon l'a adoubé à ce rôle en l'appelant le fils aîné de l'Église et en lui offrant un fragment de la vraie croix, c'est-à-dire en lui confiant en quelque sorte la mission de défendre la chrétienté et peut-être de reprendre la croisade et la lutte contre les hérétiques pour récupérer les lieux saints.
Alors le personnage de François Ier, Jean de Sonville, il est omniprésent dans ce château de Chambord, il est omniprésent également dans l'exposition. Naturellement, il y a un superbe portrait du Titien, notamment que l'on peut croiser dans les différentes salles de l'exposition. Et on insiste aussi énormément justement sur cette dualité qu'on évoquait à l'instant avec Roland Cher, c'est-à-dire à la fois un roi passionné par les arts et par les lettres, et puis un homme de guerre, donc un souverain politique. Érudit et également, c'est difficile, c'est même impossible de séparer ces deux facettes de la personnalité de François Ier.
Dans le pouvoir, l'exercice du pouvoir et la conception, il y a une part artistique, il y a une part d'imagination et de rêve. D'ailleurs, on retrouvera cette dualité chez Louis XIV, Et c'est quand même quelque chose qu'on retrouve chez les hommes de pouvoir. Voilà, mais chez François Ier, c'est très frappant. Il est probable que s'il avait été un particulier, il aurait été architecte.
C'est pas du tout une hypothèse, effectivement, à évacuer. Alors justement, si je vous demande, Jean de Sonville, quel est l'architecte au sens, on va dire, contemporain du terme, quel est l'architecte de Chambord ?
Le commanditaire, de manière certaine, c'est François Ier. Après, vous avez deux thèses. Vous avez une thèse, notamment au XIXe siècle, qui consiste à dire que c'était les maîtres maçons français. Alors, les maîtres maçons français étaient d'excellents exécutants. Et ils avaient fait Blois, etc. Ils ne savaient pas toujours, d'ailleurs, lire et écrire, ce qui pouvait limiter les choses. Et là, il y a l'influence italienne. Donc, il y a autre chose. Voilà, on sait que François Ier avait beaucoup d'admiration pour Léonard de Vinci, qu'il appelait mon père. On ne sait pas exactement quand ils se sont vus, ce qu'ils se sont dit. Tout ça est assez mystérieux.
Vinci qui est devenu ingénieur et architecte du roi de France.
Hein. Voilà, Vinci est architecte, il a fait l'architecture provisoire. Il n'est pas venu non plus en France pour rien. Il a fait les plans, les projets de Romorantin.
Donc, projets qui n'ont pas abouti,
qui
ont été abandonnés pour des raisons financières.
Pour des raisons, pour plusieurs raisons, parce qu'il y a aussi des raisons sanitaires, c'est-à-dire qu'on pensait qu'à Romorantin, plus encore qu'à Chambord, il y avait des risques de malaria, fièvre jaune, etc. Certains disent aussi que Romorantin, c'était plus le projet de Louise de Savoie, la mère de François Ier, qu'il s'en affranchit. Et voilà. Et puis peut-être aussi qu'à un moment donné, François Ier se dit, en fait, on ne sait pas très bien pourquoi il s'arrête sur Chambord. La meilleure hypothèse, c'est ce que venait dire Roland Cher, c'est qu'il y a un temps 1 assez court qui est le pavillon de chasse et le temps 2 qui est l'affirmation personnelle et du pouvoir royal.
Mais alors l'architecte alors du coup de Chambord, est-ce que qu'il s'agirait de ce Dominique de Cortone surnommé le Bocador qui était un des collaborateurs de Vinci, Roland Cher?
Alors les Italiens sont sans aucun doute intervenus. Moi je fais l'hypothèse, vous savez, j'ai lu le traité d'architecture du Filarete qui est écrit sous forme d'une conversation entre le prince et l'architecte.
Et il y en a des pages dans l'exposition.
Voilà, et le manuscrit original est exposé ici, une conversation entre le prince et l'architecte qui est une espèce d'échange étrange. D'ailleurs, Filarete dit « Je vais être la mère, vous serez le père » et qui curieusement dit que la naissance de l'enfant a lieu lorsqu'il produira un dessin et une maquette. C'est-à-dire que la gestation, c'est avant tout la gestation d'un dessin et d'une maquette qui joue le rôle central. Donc j'imagine, moi, une conversation entre le prince et des architectes, un prince lui-même volontiers favorable à jouer lui-même le rôle d'architecte. Alors Dominique de Cortone a été invité en France très tôt, dès 1495, dès la première guerre d'Italie, la campagne de Naples mené par Charles VIII. Il est donc, il était de famille de menuisiers et d'ébénistes et l'atelier de son père avait pris comme spécialité la fabrication des maquettes d'architecture. Donc c'est à ce titre qu'il a été invité en France. Petit à petit, il est devenu faiseur de châteaux, c'est comme ça qu'on l'a appelé, et il a été finalement, dans les années 1530, l'architecte, c'est-à-dire il a véritablement dessiné les plans et dirigé le chantier de l'hôtel de ville de Paris. Donc c'est quelqu'un qui a, en France, dans l'atmosphère et le milieu de la cour de France, qui est passé du rôle de maquettiste au rôle d'architecte. Donc, on sait aussi, et on a un document qui le montre dans l'exposition, que pour Chambord, il a fabriqué une maquette. Et cette maquette a été décrite par un historien du XVIIe siècle, André Félibien, qui en a fait un relevé. Elle était, quand il l'a vue, toute pourrie et toute gâtée, dit-il, mais il en a fait un dessin et un relevé. Et on peut dire que c'est sans doute le premier projet de Chambord avant que cette transformation qu'on évoquait tout à l'heure se produise dans les années 1516-1517.
Alors il y a des maquettes hein, dans l'exposition, des maquettes beaucoup plus contemporaines évidemment, mais il y a aussi des dessins qui datent hein, de très très longtemps et notamment de ce 16e siècle français.
Déjà du 15e siècle italien où l'art du design, du dessin d'architecture, disegno qui veut dire dessin et mais aussi projet, mais aussi destin, enfin c'est véritablement une projection dans le visible d'une idée qui est destinée à devoir être, en quelque sorte, c'est ça l'idée de, je peux parler en philosophe, l'idée du design, et ce qui est au cœur de l'activité de l'architecte vu par les humanistes italiens. Et ensuite, on a reçu, on a eu le prêt, on a bénéficié d'un prêt exceptionnel du British Museum, qui sont les dessins que Jacques Androuet du Cerceau, lui aussi architecte et dessinateur, un peu plus tard, au cours du XVIe siècle, comme vous le disiez à l'instant, a réalisé pour l'ensemble des châteaux auxquels François Ier a...
Chambord, Blois, Fontainebleau aussi.
Fontainebleau, Saint-Germain, Le Louvre, Chalutot, Folembray, etc. Ouais. François Ier a mis la main à 11 châteaux, les uns construits à partir de rien, les autres à partir d'agrandissements ou d'embellissements de châteaux existants.
Alors, Juan Fernandez Andrino, vous qui êtes architecte, justement, quel regard est-ce que vous portez sur ces dessins si anciens, sur ces maquettes? Est-ce que ces dessins sont très différents des dessins d'architectes d'aujourd'hui?
Pas tout à fait, parce que il faut réfléchir aussi que tous nos outils contemporains d'utiliser des ordinateurs, bon, ils sont assez récents. En fait, je vais dire que moi je fais mes études, ça fait 25 ans, mais à l'époque je n'utilisais plus des ordinateurs. Donc et à cette époque-là, bon, on utilisait l'encre, les rotring, qui finalement sont pas des outils si différents de ce que était utilisé à cette époque-là.
Exactement.
Donc c'est vrai qu'il y a un énorme écart maintenant dans les outils de l'architecture, mais avant l'évolution était beaucoup plus douce.
Jean de Sanville.
On ne résoudra jamais cette question de l'énigme de qui est l'architecte. Ce qu'on peut dire de manière certaine, c'est qu'effectivement Léonard de Vinci n'est pas l'architecte au sens de celui qui construit, puisqu'il meurt avant le début de la construction. On sait aujourd'hui, et ça c'est la thèse aussi de l'exposition, que François Ier était en quelque sorte l'ensemblier chef d'orchestre, qu'il a pris des uns des autres, et c'est lui qui décide de l'amalgame de tout. Mais on peut dire la première partie de Chambord, le donjon dans lequel nous nous trouvons, c'est la mise en œuvre d'un programme léonardien. Mais on ne sait pas ce que Léonard a recommandé, ce qui a été pris selon quelles décisions, quelles influences. Qu'est-ce qui est léonardien ici?
Voilà, c'était la question suivante. Alors, ouais. On pense évidemment à l'escalier.
L'escalier, alors c'est ce que tout le monde reconnaît, mais l'escalier, c'est pas simplement l'escalier. Parce qu'en fait, les gens disent toujours, oui, c'est intéressant, il y a deux volets, on se croise pas. Ouais. Et en réalité, ce qui est intéressant, c'est au-delà de l'escalier, c'est comment l'escalier s'articule avec l'ensemble de la conception architecturale. Et là, on tombe sur l'idée du mouvement perpétuel, qui est quelque chose qui fascine Léonard de Vinci, mais qui est aussi l'idée d'un renouveau, donc d'une renaissance, et donc de quelque chose qui est à la fois arthurien, la question du cycle, la quête du Graal, l'éternité, voilà, mais aussi quelque chose qui est peut-être très humaniste à l'époque, puisque c'est aussi le corps avec le fluide de la vie. Et qu'est-ce qu'il y a de giratoire? Ben, il y a bien sûr l'escalier double révolution, qui est aussi une figuration de l'arbre de vie qui monte vers le ciel. Il y a la rotation des tours, il y a les bras de croix, ce qu'on appelle en aile de moulin, en fait c'est comme une sorte de croix gammée, hein, une svastika, qui en soi est un symbole d'éternité. C'est-à-dire que les Chinois, les Indiens les utilisaient déjà, et les Grecs, pour montrer l'éternité. Et voilà. Et il y a les cheminées aussi qui tournent par degrés. Il y a aussi la structure modulaire des appartements en carré et dans les logirons. Là, nous sommes dans un logiron avec d'ailleurs des dimensions de pièces qu'on retrouve dans les carnets de Léonard comme étant des dimensions idéales. Donc de 18 mètres de long, de 9 mètres de côté. En fait, une structure modulaire de 9 mètres par 9 mètres. Même l'emplacement en plaine est un emplacement qui est recommandé par Léonard de Vinci plutôt que sur une colline, parce que ça surprend plus le visiteur. Donc voilà, après la Jérusalem céleste, etc., ça vient peut-être aussi d'autres. Et il y a un assemblage. En fait, c'est difficile de savoir la part des uns des autres.
Vous m'en direz des nouvelles ?
Cette émission est une rediffusion.
Sur RFI.
Une émission spéciale enregistrée au château de Chambord qui fête ses 500 ans avec nous Jean de Sonville, directeur général du domaine national de Chambord, l'architecte Juan Fernandez Andrino et le philosophe Roland Cher, commissaire de cette exposition Chambord 1519-2019, l'utopie à l'œuvre qu'il faut visiter d'ici au 1er septembre. Alors justement, Roland Cher, l'utopie, c'est une bonne question pour le philosophe que vous êtes. Ça, c'est un mot qui fait référence à un livre de Thomas More, hein, théologien, homme politique anglais.
Chancelier d'Henri VIII.
Voilà, et le livre il est paru en 1516.
Donc nous sommes à quelques années près au moment de la gestation de Chambord.
Sauf que le mot utopie à l'époque n'a pas tout à voilà. fait le même sens qu'aujourd'hui.
Voilà, alors nous avons en utilisant l'expression l'utopie à l'œuvre essayé de corriger les malentendus qui pourraient venir du sens que le mot a pris depuis. Lorsque Thomas More écrit son ouvrage, c'est un traité du bon gouvernement. Au fond c'est l'idée, voilà comment l'Angleterre, puisque c'est une île et personne n'est dupe, comment cette île que je place au-delà du monde connu dans un endroit que j'appelle nulle part, comme s'il n'existait pas et comme si on pouvait se dispenser de la réalité, voilà comment l'Angleterre pourrait être bien gouvernée si on appliquait des règles rationnelles à l'administration des hommes et à l'administration des choses. Et vient la description d'une île. Alors, le terme d'utopie a ensuite pris la signification de chimère, de rêve impossible à réaliser, et ce n'est pas du tout, si vous voulez, pour Thomas More, c'est un exercice de pensée. C'est un exercice de pensée qui est favorisé par la fiction, qui est en quelque sorte libéré dans sa radicalité par le recours à la fiction. Je vous raconte une histoire, ça n'est nulle part, mais du coup, j'ai les coups des franges pour penser complètement ce que pourrait être un bon gouvernement. Et je pense que il y a un parallèle entre le dessin d'architecture tel que les Italiens du XVe siècle le conçoivent et l'équivalent littéraire, si vous voulez, qu'est l'ouvrage de Thomas More. C'est un exercice de pensée et je pense d'une certaine façon que Chambord est un exercice de pensée.
Oui, alors justement, comment est-ce que cette utopie, au sens que vous avez décrit, se manifeste concrètement dans le bâtiment qu'est le château de Chambord? Est-ce que, on parlait de cité idéale, on parlait de Jérusalem céleste il y a un instant avec Jean d'Haussonville, c'est vraiment avec cette idée-là en tête que François Ier et ceux qui ont construit, dessiné le château se sont dirigés?
Nous sommes obligés de faire des hypothèses et il faut prendre quelques précautions. Nous avons très peu de documents sur tout ça. Ce que nous savons quasiment avec un degré de certitude assez impressionnant, assez important depuis des recherches récentes, c'est que à un moment donné, on l'évoquait tout à l'heure et Jean d'Haussonville y est revenu, à un moment donné, on est passé à un projet d'un donjon seul. L'escalier dont l'axe est formé par l'escalier venu se placer au centre et lui-même obéissant à un plan étrange, une espèce de singularité architecturale qu'on a vu nulle part, qui est un plan en aile de moulin. Ce qui m'a frappé, moi, en voyant cet objet singulier qui a ensuite été en quelque sorte oublié parce que l'un des cantons a été tourné de 90 degrés lorsqu'on a décidé de raccorder une enceinte au donjon et de créer une coursive qui permette d'aller du donjon à l'enceinte. On a dû faire une rotation de 90 degrés à l'un des cantons et du coup, ce plan initial en aile de moulin a été en quelque sorte effacé. Il y a donc une forme. À un moment donné, assez probablement entre 1519 et 1522-23, une forme qui est passée sur Chambord, je dis, comme on dirait qu'un ange passe, et puis qui a disparu. Et c'est l'interrogation sur cette forme que j'appelle utopique qui nous a renvoyé à l'univers mental des dessins de Léonard de Vinci. On a eu l'impression que lorsqu'on va chercher, non plus seulement dans le corpus architectural des dessins de Léonard de Vinci, mais dans le corpus des dessins de Tourbillon, de Machine à vis, de réflexion sur la quadrature du cercle, et en particulier de cette extraordinaire série de dessins qu'il produit entre 1517 et 1519 et sa mort, qui s'appelle les Déluges, qui sont une série de 10 dessins qui sont conservés à Windsor, qui sont des cieux constellés de typhons. C'est-à-dire qu'on a des cieux apocalyptiques, pour le coup, dans lesquels Léonard dessine des spirales tourbillonnantes de partout, qui soulèvent le monde, etc. C'est-à-dire que je pense que, pour Léonard, c'était ça, la dynamique du monde. Or, il se trouve que cet édifice n'a plus de façade principale. Il n'a ni avant ni arrière, il a 4 façades équivalentes d'égale dignité, chacune percée de 3 portes, c'est le projet de 1519, et on ne peut pas ne pas penser à la représentation en effet de la Jérusalem céleste telle qu'elle est décrite dans le verset 21 de l'Apocalypse de Jean. C'est une cité carrée, elle a 12 portes sur chacune des façades gardées par les 12 anges, et chaque façade est orientée vers un point cardinal.
Voilà. Les 4 points cardinaux font référence directement justement à ces quatre parties du monde, voilà. Et donc à ces quatre coins, si j'ose dire, du plan du château.
On y pense presque naturellement. On n'a aucun témoignage, on n'a aucun document qui nous dise qu'il y a là une source d'inspiration de cette forme, mais je crois pas qu'on puisse échapper à faire le rapprochement.
Alors, deux questions très simples, Juan Fernandez Sandrino. Est-ce que le château de Chambord, on peut le rapprocher d'une église?
D'une église, oui, dans le sens que voilà, la croix grecque, voilà, c'est la base de beaucoup des projets des églises au long de l'histoire, et aussi à Chambord, on a ces types de formes et des proportions. Mais moi, je voulais dire que dans les projets qu'on a reçus, il y a deux projets qui sont particulièrement courus dans le sens qu'ils font vraiment une perfection. C'est utopique, et peut-être qu'à Chambord n'était pas achevé, qui sont les projets des portes, par exemple, où il décide que notre ensemble est carré, voilà, et ça passe à une échelle de 10 000 fois le échelle de Chambord pour créer une ville, une cité à échelle mondiale, à échelle planétaire. Et aussi, il y a un autre projet très intéressant, c'est le projet de Nancy, où là, ils vont au-delà de l'escalier de Chambord et ils proposent un escalier à 4 révolutions. Et c'est ce qui force les bâtiments à croire, à s'étendre et introduire de supports, de services. Et c'est deux projets qui sont particulièrement intéressants dans ces schémas utopiques
de Chambord. Qui sont partie de ce qu'était le château tel que Roland Cher et Jean de Sonville viennent de nous le décrire. Donc, une église, oui. Est-ce qu'on peut rapprocher Chambord d'un château fort, Jean de Sonville? On parlait de donjon tout à l'heure.
Oui, bien sûr, parce qu'il y a une volonté manifeste de citation de la monarchie traditionnelle. François Ier en avait besoin, tout simplement, parce qu'il était d'une branche cadette des Valois. Il est le premier Valois Angoulême, donc il a besoin de montrer qu'il continue la monarchie. Et d'où la légende du règne, le César, etc., parce qu'il faut affirmer le pouvoir. Mais c'était dans la tradition, en fait, du Moyen-Âge finissant. Et donc, déjà, à Vincennes, au Louvre, au château de Saumur, on avait un château qui évoquait le Moyen-Âge. Et qui reprenait le symbole du donjon comme étant le siège du pouvoir. Mais il y avait, à mon avis, une autre raison, c'était le goût de François Ier pour les romans de chevalerie et pour en fait la fantasmagorie chevaleresque d'un monde finissant.
Notamment la table ronde et
les légendes arthuriennes, mais tous les codes de chevalerie. Chambord, en fait, c'est un mélange très intéressant d'une citation médiévale, politique, mais aussi du monde de la chevalerie et puis de l'apport de la modernité de la Renaissance. Et c'est peut-être aussi pour ça que Chambord parle tellement aux enfants. Parce que les enfants voient dans Chambord une sorte de château absolu qui serait à la racine de tous les châteaux. Et il y a quelque chose, mais sans du tout diminuer Chambord, au contraire, dans ce château idéal, il y a quelque chose dont certainement Walt Disney s'inspire, même s'il passe par Neuschwanstein en Bavière, dans l'imaginaire occidental, en passant par le détour du cinéma et des dessins animés américains, on retrouve quelque chose qui nous habite.
Alors, on parlait de la table ronde à l'instant avec Jean de Sonville, Roland Cher. Moi, ça me pose une question, là, parce que la table ronde, c'est le principe de l'égalité, c'est-à-dire que le roi est au même niveau que les autres chevaliers, je parle sous vos contrôles respectifs. Est-ce pour cette raison qu'il n'y a pas à la base dans Chambord de logis royal? Est-ce qu'il loge comme les autres, donc il est sur un pied d'égalité?
C'est l'hypothèse qu'on fait en effet, et il y a eu deux décisions postérieures au début du chantier, une première qui était la création d'une enceinte dont on a parlé tout à l'heure, et une deuxième plus tardive, sans doute dans les années 1539, qui a consisté à décider de la construction d'un logis royal dans les parties supérieures de l'enceinte du côté oriental. Donc on sait, on a quelques documents qui montrent que dans le premier état de Chambord, le logis royal était dans le canton Nord, était dans l'un des cantons qui est rigoureusement identique aux trois autres. Le logis royal, enfin logis royal, pour autant qu'on puisse parler de logis royal lorsque la cour est itinérante, hein, mais il reste que il habitait là dans un appartement, une série de pièces qui sont rigoureusement identiques aux différents étages des trois autres cantons.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
VMDN au château de Chambord qui fête ses 500 ans avec le directeur général du domaine, Jean de Sonville, l'architecte Juan Fernandez Andrino et le philosophe Roland Cher. On évoque jusqu'à la fin de cette émission l'exposition Chambord 1519-2019, l'utopie à l'œuvre à visiter jusqu'au 1er septembre. Alors au départ, effectivement, ce château devait être un simple logis de chasse, une simple résidence de chasse. On a bien compris qu'on en était quand même devenu très 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 éloigné. On chasse toujours à Chambord aujourd'hui, Jean de Sonville ?
On chasse toujours parce que en fait, il faut réguler les grands animaux dont la reproduction peut très vite entraîner une surpopulation.
Il n'y a pas que le président de la République qui chasse.
Mais le président de la République ne chasse pas, ne chasse plus. Et en fait, contrairement à ce qu'on dit souvent dans la presse, il n'y a pas de chasse présidentielle. Le candidat Emmanuel Macron a évoqué l'idée d'une reprise des chasses présidentielles, le président de la République ne l'a jamais évoqué ni fait. D'ailleurs, quand il est venu ici, il est venu saluer des représentants du monde de la chasse, donc des présidents de fédération, donc des gens élus, mais il n'a jamais évoqué l'idée d'une relance des chasses présidentielles. Les battues qui sont organisées ici, en fait, le sont pour la régulation, pour remercier des mécènes, accueillir des catégories d'invités, comme les présidents de fédération départementale de chasseurs, ce qu'on appelle les battues de régulation. En fait, une population de sangliers, si vous ne la régulez pas, elle peut doubler en un an.
Est-ce qu'on a une idée de l'ampleur du gibier qu'il y a dans le parc de Chambord aujourd'hui ?
Oui, il y a à peu près un millier de cervidés, il y a à peu près 2000 sangliers, donc un peu plus qu'une densité en forêt ouverte, même beaucoup plus, mais malgré tout une densité qui reste relativement naturelle parce qu'il y a beaucoup de prairies. Tout cela est géré en engagement durable, donc la forêt est éco-certifiée, il y a des prairies. Donc au fond, le grand paradoxe de Chambord, mais qui correspond et à son origine et à ce qu'est l'Europe, c'est que c'est une nature sauvage dans un cadre qui est artificiel. Qu'est-ce qui est artificiel ? C'est ce mur et qui fait une sorte d'isolat, et finalement à l'intérieur, on retrouve une sauvagerie. J'en veux pour preuve les oiseaux de proie. On a des oiseaux très rares, comme par exemple les balbuzards pêcheurs, ou les circaètes Jean Leblanc, et ça vient de la tranquillité de Chambord.
Vous parliez de forêt éco-certifiée à l'instant, ça veut dire que vous exploitez du bois ?
Nous exploitons le bois et on fait attention, en fait, à conserver des arbres en sénescence, de façon à ce qu'il y ait des insectes, des oiseaux, à respecter un rythme de coupe.
Il y a de la recherche scientifique également à l'intérieur.
Il y a une recherche scientifique sur notamment la dynamique démographique des grands animaux, sur les indices de changement climatique, sur la biodiversité. Une manière générale, en fait, Tout notre effort, toute notre conduite aujourd'hui est d'aller vers l'éco-responsabilité. C'est par exemple comme ça que nous traitons les jardins, sans intrants chimiques, sans intervention artificielle autre que la main de l'homme. Voilà, la vigne est bio. Nos potagers que nous allons inaugurer prochainement sont en permaculture.
Bon, et puis ce parc, c'est aussi un lieu d'événements culturels et de spectacles. Hein. Chaque année, il y a le festival de Chambord pendant l'été, avec, je crois, une programmation spéciale pour les 500 ans. Vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Oui, notamment, il y a une chose. Donc, il y aura une quinzaine de concerts entre le 30 juin et le 13 juillet, notamment avec toujours l'orchestre de Tours, qui est un orchestre ami. Il y a dans la programmation quelque chose que je trouve très amusant. C'est une composition de Berlioz qui s'appelle Utopia 2044 et qui est une sorte de musique futuriste. Et ça, c'est une idée d'ailleurs de Yannick Mercoirol, qui était commissaire adjoint. Et on a trouvé amusant de faire un clin d'œil entre le propos de l'exposition et la programmation.
Voilà, et l'an dernier, ici au Festival de Chambord, il y avait le DJ britannique Carl Cox.
Cette émission est une rediffusion.
Karl Cox qui nous emmène sur RFI dans un monde on ne peut plus contemporain et peut-être même un peu avant-gardiste, transition toute trouvée pour évoquer l'autre partie de cette exposition imbriquée, hein, je le disais tout à l'heure avec la partie patrimoniale, exposition qui s'appelle, je rappelle, Chambord 1519-2019, l'utopie à l'œuvre. Alors Juan Fernandez Sandrino, justement cette notion d'utopie, elle a toujours été l'un des moteurs de la création architecturale.
Et évidemment, et c'est pour ça que nous avons fait appel à candidature à 60 en fait universités dans tout le monde, et pour voir comment le jeune architecte réagit à cette proposition de l'utopie à Chambord, de comment finir Chambord, de ces Chambord inachevés.
Donc vous, c'est en l'occurrence le cabinet de Dominique Perrault, l'architecte entre autres de la BNF, de la dernière version de l'hippodrome de Longchamp, qu'on a reçu d'ailleurs dans cette émission il y a pas très très longtemps. Donc cette exposition, elle met donc en avant 18 projets à présenter justement par ces laboratoires universitaires de 5 continents. Comment est-ce que ces contributeurs ont été choisis? Vous les avez sélectionnés? Il y a eu un appel à candidature? Comment ça s'est passé?
Oui, effectivement, on a lancé un appel à candidature parmi 60 écoles dont leur travail nous a frappé. On avait de bonnes références et finalement, bon, on a eu 20 réponses. Bon, pour des circonstances, finalement, on a retenu 18. Et heureusement, on a des représentations qu'on voulait essayer de 5 continents. Donc, on a l'Afrique du Sud, on a 3 écoles en Amérique. On a Tokyo,
Melbourne
en Australie, et bien sûr en Europe, on a 3 écoles françaises, et voilà, partout on a l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Autriche, voilà, une belle représentation du monde.
Alors on va évoquer quelques-uns des projets un peu plus précisément dans un instant, mais d'une façon plus globale, Juan Fernandez Sandrino, est-ce que on peut dégager 1, 2 ou 3 axes majeur de cet ensemble de projets?
Oui, tout à fait. Il y a parmi les jeunes architectes une sensibilité et une préoccupation pour les changements climatiques. Et on l'a pu voir, je dirais, dans le 80% des projets choisis, que c'est un vrai sujet. Et c'est une vraie préoccupation, et les jeunes architectes essayent de donner des réponses à un problème contemporain que ils sentent comme leur problème de cette génération. Donc c'est tout à fait une question d'actualité qui a été traitée en abordant les sujets des Chambord.
Alors justement, c'est vrai que plusieurs projets imaginent un Chambord menacé ou touché par une catastrophe climatique. C'est notamment le cas des Américains de Houston ou des étudiants de l'université américaine de Sharjah aux Émirats Arabes Unis. Donc un Chambord menacé par des orages violents qui génèrent de grandes crues et une inondation. Ils tentent donc de répondre, hein, justement à ce genre de difficultés. Alors comment on fait, Juan Fernandez Sandrino, si jamais une telle catastrophe climatique, espérons évidemment que ça n'arrivera jamais, mais bon, si ça se produisait, comment les architectes comptent tirer profit finalement de ce problème pour imaginer quelque chose de grandiose et d'utopique, disons-le?
Mais et on a des différentes réponses, en fait, et très très diverses. J'évoquais tout à l'heure l'exemple de Porto, où là, ils vont jusqu'au bout dans une scénario de inondation totale de la planète, où il y a plus de terre, et ils imaginent cette grande ville 10 000 fois plus grande que Chambord, un vertical où l'humanité prend réfugié. Voilà, ça c'est une vision extrême, mais il y a des visions comme Houston qui, disons, sont plus canoniques dans la réponse. Donc ils ont vu un problème et ils parlent notamment de les grands crues en 2016 à Chambord. Ils prennent cette problématique en point de départ. Et il développe un projet qui ça serait tout à fait simple. Une barrage habitée avec de labos pour la recherche qui contrôle les niveaux des eaux.
Juste une petite question, Jean de Sonville. Chambord est en zone inondable, voire très inondable. Il y a une vraie menace ?
Nous avons été inondés en juin 2016 par les affluents de la Loire. Ce n'est pas la Loire qui a débordé, ce sont les différents affluents, le Causson, la Saudre, le Beuvron.
Alors le Causson, il passe juste
au pied du château. D'ailleurs, originellement, François Ier, ça c'était un projet utopique, voulait détourner la Loire pour placer Chambord sur une île. Et là, on était dans l'imaginaire chevaleresque. C'est quasiment pré-wagnérien comme vision des choses. Et donc, on a eu cette inondation qui était terrible. Certains des soubassements d'une des pièces qui a entraîné des dégradations, des coupures de roues, des dégradations du mur en plusieurs endroits, qui a failli faire tomber l'hôtel qui, à l'époque, était en travaux. Donc, on a eu pour plus d'un million, sans doute 1,5 million d'euros de dégâts, sans compter les pertes d'exploitation.
Alors, on parlait de cité idéale tout à l'heure avec vous, Roland Fur. Moi, il y a un projet qui m'a beaucoup intéressé, c'est le projet de Barcelone, hein, qui imagine une ville verticale bâtie comme ça sur les toits, hein, de Chambord, des gens qui se rencontrent en dessous dans le château au sein d'une infrastructure qui fonctionne de manière cyclique. Donc là aussi, il y a cette dimension éco-responsable, hein, pour se fournir en eau, en électricité, en produits alimentaires aussi. Il y a aussi les Parisiens de l'école Boulle, hein, qui transforment Chambord en terre d'accueil, d'apprentissage. Également, c'est une belle utopie, ça, finalement, de transformer Chambord en embryon ou en cœur de ville, Roland Fur. Vous en pensez quoi ?
Ils sont partis de l'idée que Chambord est inhabitable. Et au fond, leur utopie, c'est de rendre Chambord habitable, de faire de Chambord un lieu protecteur pour ceux qui n'ont nulle part où habiter, ce qui est une proposition, là encore, peut-être un témoignage de l'époque dans laquelle nous sommes.
Chambord est vraiment inhabitable, Juan Fernández Sandrino ?
Bon, mais je pense que c'est pas, les propositions sont par rapport à, parce qu'ils font référence aux réfugiés climatiques. Ils les qualifient comme ça. Donc c'est une façon de faire Chambord un lieu d'accueil pour ces réfugiés climatiques. Bon, ça se passe effectivement, comme vous l'avez dit, sur le projet Barcelone qui est intitulé Habiter les patrimoines. En fait, mais ça se passe aussi avec l'école Boulle où il préconise de différentes utilisations de Chambord comme une camp de réfugiés pour un séjour court, de moyen au long. Et Chambord devient différent et s'adapte à tous ces possibilités d'utilisation.
Bon, je vais pas demander à Jean de Sonville s'il est prêt à accueillir des réfugiés dans l'une des salles du château. Vous avez de la place quand même.
Nous allons lancer à l'automne un chantier d'insertion pour refaire le mur de Chambord et à 100% d'insertion avec le soutien de Franck Rister, ministre de la Culture, avec l'idée que on a besoin de former au métier du bâtiment, à l'artisanat d'art. D'ailleurs, le chantier Notre-Dame de Paris le montre. Et avec l'idée d'accueillir des réfugiés politiques dans ce chantier. Et en fait,
donc plutôt revenir rejoint la réalité, ou plutôt la réalité
rejoint l'utopie. C'est l'utopie à l'œuvre. C'est-à-dire que c'est la marque de fabrique aussi de ce qu'on essaie de faire. Mais ce qui, moi, m'a fait beaucoup intéresser, ce qui m'a fait très plaisir dans l'exercice mené par Dominique Perrault et son agence et le jury, c'est de voir que Chambord, pour reprendre l'expression de Roland Cher, qu'on peut présenter comme un exercice de la pensée, peut toujours servir à un exercice de la pensée, peut toujours servir d'exercice de la pensée. Je crois que ce qu'il y avait de juste dans l'idée des étudiants, c'était de voir Chambord comme une petite ville, une cité idéale. Ça, c'est vrai. Et comme une sorte de deal, de monde à part. Bon, après, bien sûr, Chambord, c'est d'abord un patrimoine de l'humanité, et puis c'est un écosystème naturel qui a sa propre valeur et qu'il faut préserver, et plutôt faire vivre. Et donc, ce serait plutôt ça la réponse.
Alors, avant de se quitter, un petit mot sur le projet africain, Juan Fernández Sandrino, parce que RFI, vous avez très très écouté sur le continent africain, et il y a une seule université africaine, hein, parmi les 18 qui ont contribué à cette exposition, c'est l'université du Cap, en Afrique du Sud, qui imagine un château africain à partir de Chambord. C'est une idée qui met en corrélation, en fait, des collages.
Oui, tout à fait. Ils ont essayé d'établir une. C'est aussi une critique du point de vue de l'Afrique du Sud, du colonialisme. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait ces collages et c'est plutôt cette implantation de Chambord au Cap et du fort de Bonne-Espérance qui a été construit en 1666 par le Néerlandais sous la baie du Cap à Chambord. Donc ils font cet exercice de un peu de dystopie et ils connectent un peu le bâtiment, mais aussi ils parlent de l'exercice de pouvoir de l'architecture, comment c'est fort est établi pour la domination d'un territoire, ce qui ils expliquent comme le colonialisme, et de la même façon que Chambord était établi pour une domination sur le territoire de la vallée de la Loire, et on peut donc voilà, c'est un exercice aussi intéressant des critiques de l'autorité de l'architecture.
Alors justement, puisque vous êtes un architecte et que de l'actualité, on en parlait à l'instant avec Jean Dossonville, il y a évidemment Notre-Dame. Je voulais juste terminer par une petite question simple. Est-ce que, Juan Fernandez Andrino, qu'est-ce que vous pensez du débat sur la reconstruction à l'identique d'un monument comme Notre-Dame? On pourrait aussi, éventuellement, à Dieu ne plaise, évidemment, parler de l'exemple de Chambord, si jamais un malheur arrivait. Est-ce que, quand on fonctionne sur cette dimension utopique qu'on évoquait à l'instant, c'est pas un formidable appel à dire, ah ben non, il faut surtout pas reconstruire l'identique, il faut inventer autre chose?
Oui, mais qu'est-ce que c'est l'identique? C'est-à-dire que c'est ce qu'on a reçu de Notre-Dame. Voilà, c'est une récréation du 19e siècle. Donc c'est du médiéval? Non, c'est du faux médiéval.
Donc vous voulez pas trancher le débat, alors, si je vous entends bien.
Non, mais c'est un point de vue que je considère que effectivement c'est tout à fait discutable. Mais comme architecte contemporain, évidemment, on peut apporter quelque chose.
Jean Dossonville, sur cet état de débat qui pourrait concerner un jour Chambord, on ne sait jamais.
En fait, c'est un débat qui concerne le patrimoine tous les jours, et je crois à la dignité du patrimoine. Mais cette question de savoir comment on restaure ou on restitue, tout le monde se la pose tous les jours. Effectivement, l'expression à l'identique, elle est très lâche, très floue, parce qu'à l'identique de quoi, en fait, on ne sait pas. Ce qu'on peut dire, c'est que dans le cas de Chambord, le débat, en fait, se repose régulièrement, il a déjà été tranché, parce qu'au XIXe siècle, il a fallu quand même restaurer Chambord, et il a fallu restituer des décors de pierre qui avaient en partie disparu, et également aussi certains éléments de plomb qui avaient fondu à la fin de l'Ancien Régime. Et à l'époque, dans la doctrine de restauration, qui d'ailleurs concerne aussi Notre-Dame, qui voulait le duc, on cherche, mais avec authenticité, à revenir le plus possible à ce qu'on pense qui a été à l'origine. Moi, je ne me prononce pas sur Notre-Dame de Paris, je vais dire Notre-Dame de Chambord, vous voyez le lapsus.
Oui,
alors pour un lapsus, il se trouve que l'architecte en chef de Notre-Dame de Paris, que je veux saluer, Philippe Villeneuve, est aussi l'architecte en chef de Chambord, et c'est quelqu'un qu'il faudrait d'ailleurs interroger sur le sujet, mais on a ici travaillé à des restitutions extrêmement rigoureuse.
Roland Fer.
Oui, moi je pense que le patrimoine est précieux parce qu'il nous aide à voyager dans des mondes qui ne sont plus les nôtres. Pour autant, sacraliser figer et sacraliser ces témoins de mondes disparus serait une erreur parce que il ne s'agit pas de fétichiser ces témoins, il s'agit de les faire vivre et de les faire vivre dans le monde qui est le nôtre.
Merci beaucoup à tous les trois, Jean Dossonville, Juan Fernandez Andrino et Roland Fer, de votre accueil. Merci de nous avoir guidés dans le passé, le présent et les utopies du château et du domaine de Chambord. Je rappelle que cette exposition se tient jusqu'au 1er septembre. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Dans un instant, l'info sur RFI, et vous m'en direz des nouvelles.